Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio-Canada.
France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette déclinaison estivale de la librairie francophone. Nous sommes en Belgique aujourd'hui pour cette 7e étape. Voici le sommaire de cette édition. On vous emmène sur les traces de Simenon à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort. Nous sommes dans son quartier à Liège, au bord de la Meuse, avec Benoît Denis, grand spécialiste belge de Georges Simenon, créateur du Commissaire Maigret. Le club francophone sera culinaire aujourd'hui avec le chef Christophe Hardiquest, 2 étoiles au Michelin, classé parmi les meilleurs chefs du monde. Nous irons à sa rencontre dans une célèbre brasserie bruxelloise qui produit de la gueuse depuis 1900. Il sera question du nouveau Blake & Mortimer qui se déroule à Bruxelles avec Françoise Keuten. Et vous entendrez le Québécois Boucard Diouf pour un essai très particulier sur les excréments. Un entretien instructif et drôle qui va vous surprendre.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Et on commence cette émission comme chaque semaine cet été avec notre série « Un auteur, une ville ». Aujourd'hui, Georges Simenon à Liège, grâce à Benoît Denis, spécialiste de Simenon, qui a contribué à l'édition de la Pléiade consacrée à Georges Simenon, avec d'ailleurs Jacques Dubois, spécialiste aussi de la littérature francophone de Belgique et directeur du centre d'études Georges Simenon, ici à Liège. Bonjour Benoît Denis.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Alors on est ici à Liège, voilà. Dans le quartier de Simenon. On va se balader ensemble, il y a plein de lieux à découvrir et plein d'éléments aussi biographiques à raconter.
Absolument, donc nous partons ici de la place de l'Hôtel de Ville, mais nous sommes surtout en face de la maison natale de Simenon, de l'appartement que ses parents occupaient lorsqu'il est né en 1903. Le 12 février 1903, la légende veut qu'il serait né un peu après minuit le 13.
C'est déjà un roman sa vie,
voilà.
Parce qu'en fait il n'est pas vraiment né le 12 février.
Alors, il a toujours dit que sa mère, qui était superstitieuse, ne voulait pas qu'on déclare la naissance de l'enfant à 13. Et donc elle avait obligé son père à le déclarer peu avant minuit le 12. Ça commençait déjà, en effet, comme un roman.
Bon, on est sur la place du Commissaire Maigret, ça ne s'invente pas parce que Liège est vraiment envahi hein, par la mémoire de Simenon. Il y a une statue d'ailleurs, un banc avec une statue du Commissaire Maigret.
C'est ça, oui. Alors en effet, bon, pour une ville comme Liège, évidemment, avoir un écrivain de la stature de Simenon, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc en effet, la ville a eu le souci de faire un itinéraire que les visiteurs peuvent suivre sur les pas de Simenon, de son enfance et de son adolescence, puisqu'il faut bien savoir que Simenon a quitté Liège à 19 ans,
oui.
Et que donc la ville de Liège, pour lui, c'est la ville de l'enfance et de l'adolescence, pas du tout de l'âge adulte.
Bon, alors, voilà. Alors juste derrière, là, pas très loin d'ici d'ailleurs, vers la place de l'Hôtel de Ville, il y avait un journal,
oui.
La Gazette de Liège, qui était le grand quotidien local. Et Georges Simenon, à la sortie de la guerre, en 1919, va entrer comme ça, au culot, dans les bureaux de la Gazette de Liège, et il va demander un poste de reporter. Ce qu'il va avoir à l'âge de 16 ans, 15 ans,
16 ans, oui. Alors ça, c'est tout à fait Simenon, hein. C'est quelqu'un qui sait y aller au culot, en effet, et mettre le pied dans la porte. Et la chose est d'autant plus exceptionnelle que ce journal est un journal catholique très conservateur. Et donc, a priori, ce petit jeune homme peu complexé, n'a pas du tout le profil pour exister dans ce journal-là, mais le directeur, qui s'appelait Joseph de Marteau, va être séduit par sa personnalité et va souhaiter lui donner sa chance. Il va même d'ailleurs assez bien le protéger. Donc il va d'abord faire la rubrique des chiens écrasés, donc tous les matins il se rendait à l'Hôtel de Ville qu'on vient de quitter pour entendre le rapport du commissaire sur ce qui s'était passé pendant la nuit. Il tenait comme ça la rubrique de tous les petits faits divers qui avaient animé la villégeoise. Mais comme c'était quelqu'un qui avait une bonne plume, il a fini par se faire confier une rubrique de petits billets d'humeur qu'il signait du pseudonyme de Monsieur Lecoq. et dans lesquels bah, il écornait un petit peu les personnalités liégeoises, un certain nombre de notabilités.
Des militaires aussi. Parce qu'il fait son service militaire.
Ici, tout près.
Bon, on est sur ce pont, on y arrive là justement, avec une péniche énorme là qui est en train de passer. Péniche de transport, de cargaison. Et la Meuse donc est sous nos pieds là, exactement Benoît.
Oui, exactement. Et donc vous parliez de péniche, on le sait bien dans l'univers de Simenon, le milieu des mariniers, des bateliers, des péniches est extrêmement important.
Et oui.
Une de ces tentes d'ailleurs tenait un peu plus loin sur la Meuse là. Une espèce d'auberge-épicerie que fréquentaient les bateliers où ils venaient s'approvisionner, se racheter du matériel, etc. Donc c'est un monde qui l'a toujours beaucoup fasciné, à tel point d'ailleurs qu'au début de sa carrière parisienne, quand il a commencé à publier les Maigret, il vivait sur un bateau.
Et là aussi, il y a une légende, parce qu'il dit que le commissaire Maigret, ce personnage qui apparaît dans son œuvre d'abord comme ça, petit à petit, il serait né, on va laisser passer l'ambulance. C'est très bruyant. Hein.
C'est la
police, c'est pas une ambulance. Justement, ça tombe bien. On parlait du commissaire Maigret. Donc, il y a cette légende qui dit que peut-être que son personnage serait né dans un port des Pays-Bas.
Oui, à Delfzijl, où une statue d'ailleurs a été érigée pour commémorer la chose. Le moment où le personnage lui est apparu, ou sans doute le patronyme aussi lui est apparu, ne correspond pas au premier des romans de Maigret officiellement publiés sous le nom de Simenon. En réalité, c'est très vraisemblablement un de ses derniers romans populaires mettant en scène un personnage de détective qui s'appelle Maigret, qui a été composé là-bas. Mais enfin, toujours est-il qu'il avait trouvé à ce moment-là la formule, cette formule policière avec Maigret, qu'il va ensuite aller soumettre à l'éditeur Artem Fayard, qui sera d'abord un peu réticent, qui exigera de lui qu'il lui fournisse 6 romans d'avance, ce que Simenon fera très rapidement, hein, évidemment, comme il savait le faire. Et alors là, la série sera lancée, et sera lancée avec un immense succès immédiat.
Voilà, on quitte le pont des Arches, et on est outre Meuse, là.
Voilà, c'est on ça, entre dans ce quartier
d'Outre-Meuse. Alors on va traverser, là, du coup.
Qui est donc le quartier très identitaire de la ville, parce que c'est un quartier populaire. Mais ce n'est pas un quartier ouvrier. C'est un quartier, disons, de petits boutiquiers, de petits artisans modestes, etc. Ceux que Simenon appelait les petites gens. Et donc, le monde populaire de Simenon, c'est celui-là.
Avec la rue Roture aussi,
voilà,
qui n'est pas très loin. On va y aller, parce
qu'on va aller
jusque-là. On va lire un texte très intéressant de Georges Simenon qui raconte la rue Roture. C'est assez drôle et on va la lire dans cette rue-là dans un instant. Voilà. C'est en 1922 que Georges Simenon va partir à Paris, vivre une autre vie au service de la bourgeoisie tout d'abord, puis comme nouvelliste pour la presse, fréquentant ensuite le milieu littéraire. Il fait ses armes et puis il installe donc son personnage de Maigret. Et puis après la guerre, il part en Amérique. Il installe sa famille dans un village du Québec et lui va continuer à écrire depuis New York.
Oui, absolument. Donc il s'installe très provisoirement au Québec. Il se rend à New York parce que c'est à partir de là qu'il souhaite aussi réorganiser l'ensemble de la gestion de son œuvre littéraire. Et c'est à ce moment-là qu'on lui présente comme interprète une jeune Canadienne parfaitement bilingue qui s'appelle Denise Ouimet, dont il va tomber immédiatement éperdument amoureux. Ils vont vivre une passion amoureuse extrêmement intense. Et ce sera sa seconde épouse qui lui donnera 3 enfants. Voilà, et on se dirige tout doucement vers l'entrée de ce petit quartier de Roture qui est en fait une venelle, qui est maintenant devenu un lieu, disons, essentiellement avec des restaurants, des bars, mais qui a toujours été un quartier un peu particulier, comme ça, dans l'histoire liégeoise, pendant très longtemps.
Ah oui, c'est une ruelle pavée,
voilà,
avec un grillage
en
fer forgé, un peu sommaire.
Alors aujourd'hui, c'est un quartier qui paraît très propre dans son côté un peu typique, mais à l'époque, c'était un quartier là d'extrême misère.
Hein. Eh oui. Alors c'est ce qu'il dit, justement, voilà, dans un livre qui s'appelle « De la cave au grenier » paru en 1977, que Georges Simenon dit « Je crois qu'il n'y a qu'une ville au monde, Liège, ma ville natale, qui s'enorgueillit d'avoir officiellement depuis des siècles une rue Roture. C'est une rue étroite, probablement médiévale, qui débouche rue Puy-en-Socq, à une cinquantaine de mètres de l'ancienne chapellerie de mon grand-père. Les maisons y sont minuscules, crépies à la chaux. Lorsque j'étais enfant et jeune homme, une sorte de ruisseau coulait au milieu de la chaussée, charriant non de l'eau de source de la ville, mais de l'eau de lessive, de vaisselle et même des cabinets. Les habitants n'avaient aucune honte, au contraire, de dire qu'ils habitaient en roture, car on disait en roture, comme on dit en France, en Avignon.
Et donc, il a vu de très près la chose. Et à Paris, il a retrouvé ça à l'époque rue Mouffetard.
Alors c'est vrai que la rue est étroite, c'est vrai que les maisons sont petites, c'est vrai que les plafonds des maisons paraissent bas. Et on imagine très bien à l'époque, avant que ce soit refait comme c'est là, avec des restaurants, qu'il y avait du linge au balcon et qu'il y avait des lessives dans la rue. Et il meurt en Suisse le 4 septembre 1989. Il sera passé par la Belgique, lieu de sa naissance, par la France, lieu de la réussite, par le Québec, lieu de la résurrection, et la Suisse, lieu dans lequel il finira sa vie. C'est très francophone, c'est très éclectique chez Simenon.
Oui, mais en effet, c'est quelqu'un qui n'a dans le fond été à Paris que le temps de se faire une place.
C'est ça.
Et sitôt que cette place a été faite, Simenon est resté à francophone, si je peux dire, périphérie, c'est-à-dire qu'il s'est toujours tenu à la marge du centre parisien.
Merci beaucoup, Benoît Denis. Merci infiniment pour cette balade ici à Liège, dans l'environnement de Simenon. On a vraiment vécu avec vous, et j'espère que les auditeurs l'ont vécu aussi avec nous, cette ambiance et cette vie de Simenon très atypique. Merci beaucoup, Benoît.
Merci beaucoup, et c'est un plaisir.
Un plaisir pour nous aussi. Nous allons quitter le quartier de Georges Simenon pour aller faire un détour par les studios télé de la librairie francophone avec un immense auteur et dessinateur de BD belge, François Skuyten. Avant cela, voici le rappeur congolo-belge Balodji.
Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez. Les éclairs, ce sont des fissures dans un plafond goudronné. Encaisser le choc thermique, échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emric Bouyamba, enchanté. Mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. À son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, chambre de vol. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champ de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne. Oh, hiberne bien. Exilé intérieur accroché à son radiateur.
C'était Balodji avec l'hiver indien sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. Alors que l'on se dirige vers les Galeries Royales ici à Bruxelles avec beaucoup de touristes qui sont autour de nous en cet été ensoleillé, des musiciens de rue que vous entendez aussi derrière moi. Nous allons faire un petit tour du côté de nos studios télé. Vous savez que la librairie francophone a été adaptée à la télévision. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les liens sur notre site internet ou sur ma page Facebook. Dans la dernière émission diffusée début juillet, il y avait François Skuyten, grand auteur de bande dessinée, qui a repris Blake et Mortimer. La bande dessinée fait l'événement en ce moment même dans toutes les librairies francophones. Voici un extrait de cet entretien.
Bonjour François Skuyten.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un véritable chef-d'œuvre graphique. La BD que tout le monde plébiscite. Numéro 1 des ventes, le nouveau Blake et Mortimer. Série culte, revisite le mythe. Quand on connaît votre travail, François, les cités obscures, La Douce et autres Bruxelles, on constate que vous avez glissé un peu de votre univers dans cette BD, a priori intouchable.
C'est vrai, j'ai pas pu m'en empêcher.
Ah ben oui.
Parce qu'on y a un peu tout mis dans ce livre. On y a mis toutes nos angoisses, tous nos rêves, toutes nos passions, et c'est vrai que naturellement il y a le chien qui est venu, il y a cette locomotive mythique, et puis surtout il y a cette ville et ce palais de justice.
Alors c'est un journaliste bruxellois, paraît-il, qui vous dévoile un début de synopsis un jour, un synopsis perdu imaginé par Edgar Jacobs. Il avait envisagé une histoire dans le palais de justice de Bruxelles. Palais de justice qui, pour ceux qui connaissent, est un véritable labyrinthe. Palais de justice que vous connaissez bien, François.
Oui, c'est une passion depuis très très jeune. Je le visite, je le retraverse, je tourne autour, je le dessine. C'est un lieu incroyable, un peu oublié, alors qu'il est au cœur de la ville qui domine la ville de Bruxelles. C'est un élément emblématique, c'est là où on y fait la justice. Mais il est entouré depuis presque 35 ans d'un immense échafaudage, qui est comme une espèce de ferraillage qui l'encercle et qui n'a servi à rien. Ouais. Et donc cette étrangeté est fascinante pour beaucoup de Bruxellois.
Vous avez dit avoir reçu l'autorisation d'aborder les personnages comme bon vous semblait. Alors vous dites à la fois c'était une marque de confiance, mais c'était aussi une corde raide. Et alors vous êtes permis de vieillir les personnages. On le voit sur les images, quand on voit Mortimer, il est retiré des affaires, il est un peu brouillé avec Blake. C'est un vrai acte de liberté, ça.
Oui.
C'est comme si on disait qu'Astérix et Obélix étaient brouillés.
Oui, en même temps, c'était une façon, là aussi, de retrouver de la liberté. C'est-à-dire de penser que les personnages avaient évolué.
Oui.
Et d'imaginer leur carrière, chacun respectif. Un Mortimer qui prend un peu de recul, qui est un petit peu écarté parce qu'il a des problèmes de ses cauchemars qui sont très récurrents et qui sont dus à ce qui lui est arrivé.
En Égypte.
En Égypte et surtout dans ce palais de justice où il a été victime de ses rayonnements. Et donc, c'était intéressant. Ça donnait un petit peu d'épaisseur à leurs années séparées.
Et au fait des allers-retours avec l'œuvre de Jacobs, c'est pour ça que je parle de l'Égypte, parce qu'il y a tout un volume de Blake et Mortimer en Égypte et vous faites comme ça des petites allusions. Alors il y a un danger qui menace le monde. Un rayonnement étrange surgit du palais de justice de Bruxelles. L'humanité est menacée par un cataclysme cosmotellurique. Et pour contenir ce rayonnement, cette perturbation électromagnétique, on construit une sorte de cage de Faraday.
Oui.
Autour du palais. Et là aussi, c'est en écho.
Oui, évidemment. Écoutez, c'était une façon de trouver enfin une justification à cette espèce de surréalisme belge, cette espèce de chose qui ne sert à rien et auquel on s'est habitué. C'est sans doute ça qui est le plus grave. Et donc là, justement, enfin, on a une explication.
On imagine aussi un train chargé d'explosifs qui fonce comme ça vers le palais de justice, mais ça ne résout pas le problème. Ouais. Il y a aussi des missiles qu'on va envoyer, et là, évidemment, Blake et Mortimer sont là pour sauver le monde, car si on envoie ces missiles, c'est la catastrophe, parce qu'on imagine que ça va contaminer le monde entier, que le rayonnement va se propager, et Mortimer est envoyé discrètement.
Oui, il va retrouver Bruxelles dans un état tout à fait différent, la ville est abandonnée, il y a des gens qui résistent au cœur de cette cité enneigée, qui est victime toujours de ces problèmes, c'est-à-dire que ce rayonnement a été un petit peu préservé, arrêté.
Contenu,
voilà, c'est le terme exact. Et puis donc, dès lors, son rôle, c'est d'essayer de rejoindre ce palais dans des conditions assez difficiles.
Ah oui, alors on voit, parce que la ville est envahie par les eaux.
Oui, le repérage est très précis, comme Jacob savait le faire.
Où
vraiment, on essaye dans les moindres détails de retrouver les éléments qui participent à la crédibilité d'un récit.
Et vous abordez un sujet d'actualité. Il faut savoir que Blake et Mortimer ont toujours abordé, à leur époque, des sujets d'actualité. Là, il est question d'une grande panne d'électricité. Il y a un auteur suisse, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Bernard Comment, qui a fait un livre sur ce sujet-là, Neptune Avenue, et qui raconte qu'un jour, peut-être, il y aura une panne d'électricité qui va reconsidérer la société. C'est ce qui se passe dans cette bande dessinée. On reconsidère la société. C'est un sujet qui vous préoccupe, ça ?
Oui, parce que...
Une grande panne ?
La préoccupation, c'était de mettre Blake et Mortimer aujourd'hui, dans notre époque. Et pour sauver le monde aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes préoccupations et la même façon que d'aborder les choses que dans les années 50. Et aujourd'hui, la tentation d'un reboot, d'un reset, où on remettrait tout à zéro, est grande parce qu'on sait la difficulté des pays, l'endettement. Mmh. Et si un jour, un rayonnement faisait en sorte que...
C'était François Skuyten dans la version télé de la librairie francophone. Et le nouveau Blake et Mortimer, Le Dernier Pharaon, est diffusé par les éditions d'Argo. Nous sommes arrivés dans les Galeries Royales, ici à Bruxelles, avec les célèbres chocolatiers qui sont autour de nous, et puis un magasin de dentelle, lui aussi célèbre. C'est aussi cela, la tradition belge. Les touristes, évidemment, sont nombreux en cette journée estivale, et nous allons nous diriger pour notre club francophone dans le quartier d'Anderlecht, à la découverte de la brasserie Cantillon, qui est une véritable institution ici en Belgique, et nous allons rencontrer le grand chef cuisinier Christophe Hardikest. Il va être question de la bière et de la tradition culinaire belge. Ce sera juste après Isia que l'on écoute tout de suite. Bon été à tous avec la librairie francophone estivale. C'était Isia avec Trop Vite et on est en Belgique pour le club francophone.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
Nous sommes à Bruxelles, à la brasserie Cantillon, musée bruxellois de la Gueuse, pour ce club francophone inédit et inattendu, avec un grand chef cuisinier et un maître brasseur connu dans le monde entier. Bonjour Christophe Hardikest.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien, en pleine forme.
Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Jean Van Roy.
Bonjour.
Alors on est chez vous ici, à la brasserie Cantillon. Racontez-nous l'histoire de ce lieu.
Alors l'histoire de ce lieu, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire de la famille Cantillon.
l'histoire de ma famille, puisque c'est mon arrière-grand-père, Paul Cantillon, qui a fondé la brasserie ici en 1900. Et on y fait toujours une bière ancestrale avec une fermentation naturelle, comme on faisait la bière il y a quelques siècles d'ici. Et la bière telle qu'on la fait aujourd'hui est une des dernières au monde, si pas la dernière, qui est encore fabriquée comme ça.
Alors Christophe, vous avez 2 étoiles au Michelin pour votre restaurant Bonbon situé à Woluwe-Saint-Pierre, à 10 kilomètres d'ici environ. Et vous dites qu'il y a une mondialisation de la haute gastronomie. Et c'est ça que vous voulez changer. Vous voulez vous attacher aux produits du terroir, la gueuse notamment, mais pas seulement.
Bien sûr, je pense qu'un chef sensé aujourd'hui est conscient de plein de choses. Il est conscient d'abord de son identité, de l'écologie. Quand on a tout sous la main à côté de soi, pourquoi est-ce qu'on devrait faire venir du bœuf de Wagyu du Japon ? Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est d'être fier de mon territoire, surtout pour le consommateur qui voyage. Donc on reprend tous les produits de notre territoire que l'on élève au niveau de la haute gastronomie, pour plus d'identité.
Le waterzoi, par exemple, vous le faites à la sole au lieu du poulet. Le ceviche, au lieu de faire cela avec du thon ou du lieu, vous le faites avec de la moule de Zélande. Exactement. Donc il y a une appropriation finalement des recettes traditionnelles, des recettes qui marchent, qui font plaisir au public, mais avec des produits belges.
Oui, et puis surtout, il y a une grande réflexion sur le choix des produits. J'ai même depuis peu engagé un chasseur de produits. Donc ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois que quelqu'un s'occupe de me trouver des produits. Et notamment, on a fait une petite création avec Jean et j'étais très fier de ça. Ça m'a touché. Bon, on a inventé une bière. Je suis parti d'une idée d'une macération et Jean a amené son expertise et son savoir-faire. On a fait une bière à base de cardamome. Une gueuse à base de cardamome, un lambic à base de cardamome qui est génial, qui peut se servir justement sur des poissons crus. Et je pense là au maquereau. Je pense au chinchard, je pense à la moule. On l'a servi sur la ceviche de moule. C'est génial, ça a une aromatique citronnée avec la cardamome. On utilise une épice, mais on s'est amusé. Et Jean a dosé ça à merveille. On l'a appelé Initial Bibi. De la chanson.
C'est pas mal.
De la chanson
de Bardot.
De Serge Gainsbourg. Voilà. Oui, de Bardot. Et on trouvait ça chouette. Et donc, cette bière, elle n'est pas commercialisée parce que ce n'était pas le but de la commercialiser, mais c'est surtout de s'amuser. Et c'est un produit que maintenant tout le monde veut.
Attendez, il la montre parce qu'on est à un bar. Il faut savoir qu'il y a des barriques en bois. On est quasiment attablé finalement avec des verres autour de nous.
Et elle est là-bas. Ils ne sont pas pleins, les verres. Ils ne sont pas pleins.
Non, ils ne sont pas pleins. On n'a pas encore bu. Christophe va la chercher. Alors, voilà. Ah oui, Initial bébé. Voilà. Avec vos photos.
On a fait ça par un dessinateur. On trouvait que c'était.
C'est parce
que
égocentrique, c'est... Christophe.
Pas du tout. Mais la Belgique est un pays dessinateur. Mais
c'est vrai, c'est voilà, vrai.
On doit jouer l'identité jusqu'au bout du détail, etc. Donc on s'amuse beaucoup. Et je pense que la vérité, elle est dans ce qu'on vit et dans le plaisir qu'on prend à faire les choses.
On va visiter un petit peu avec vos gens. Il y a la chaîne d'embouteillage qui est juste derrière, quasiment manuelle. Tout est artisanal ici.
Le fait que des grands chefs comme Christophe s'intéresse à la bière aujourd'hui, pour nous, ça nous apporte une reconnaissance absolument immense. Et ça nous fait un plaisir fou. Voilà, c'est une reconnaissance pour un combat qu'on a mené pour sauver cette bière pendant des dizaines et des dizaines d'années.
Oui, depuis 1900. Il y a beaucoup de bruit et donc on est devant la chaîne d'embouteillage, là.
Là, oui, voilà. Là, on met de la framboise en bouteille, qu'on appelle le rosé de Gambrinus. Donc, c'est une macération de framboise fraîche. À raison de 200 grammes de fruits par litre de bière. Et là, la bière va encore falloir attendre quelques semaines à quelques mois avant de pouvoir la commercialiser.
Alors, on a plein de bouteilles là autour de nous. C'est très joli parce qu'on a des murs de bouteilles. C'est très bien organisé, très bien classé.
Bière met plusieurs mois. C'est une refermentation naturelle en bouteille, comme le champagne. Donc, on appelle d'ailleurs la gueuse et les dérivés le champagne des Bruxellois.
Oui, c'est ça.
Puisque voilà, c'est un assemblage de lambics d'âges différents qui va refermenter naturellement en bouteille. Mais cette refermentation demandant un laps de temps très long, pour une petite production comme la nôtre ici, on a en fait un stockage absolument gigantesque. On a ici en permanence dans la brasserie approximativement 250 000 bouteilles.
Pour ah une oui, 250 000
250 000 bouteilles. Oui, on va dire entre 200 et 250 000 bouteilles.
Oui, mais tu n'en as jamais assez.
Voilà, et je dis que j'en ai jamais assez, effectivement. oui. Mais voilà, on a besoin d'une telle réserve, tout simplement parce que les bières doivent vieillir pendant des mois, voire parfois pendant plus d'un an.
Christophe Hardiquest, vous dites que les Belges ont une tradition culinaire très forte, mais qu'ils ne l'assument pas assez. Il faut que les Belges repensent finalement leur façon d'imaginer la cuisine. Des croquettes de crevettes, des moules frites, ça peut être un grand plat aussi.
Absolument. Aujourd'hui, nous, par exemple, on va aller cuisiner en Autriche pour en Gare 7. On a fait que du belge. Dès qu'on se déplace à l'étranger, on présente des recettes belges que l'on revisite et que l'on reconstruit avec une manière très moderniste. Chaque fois que je vois un collègue dans le monde, je prends de la gueuse dans mes valises et je leur ramène de la gueuse de la bébé ou de la gueuse de chez Jean ou des chocolats de mes collègues. Voilà. Ce qui m'importe, c'est que aujourd'hui, notre territoire soit reconnu au niveau mondial, au niveau qualitatif, à travers nos recettes, à travers notre artisanat, et surtout la fierté d'être ce que l'on est, c'est-à-dire un mélange. Nous sommes un mélange de différentes influences.
Donc ça ne vous ferme pas sur le monde, ça. Quand on travaille ces traditions, on a toujours tendance à penser que ça nous enferme, que ça nous replie finalement. Vous, non, pas du tout. Ça vous ouvre sur le monde.
Ben, en tant que Belge, on peut parler du poids de l'héritage.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, la France l'a connu avec son vin. La Belgique l'a connu au niveau de la bière, à un moment donné aussi, parce que les Belges n'étaient plus assez créatifs sur la bière, alors que les Canadiens et les Américains s'amusaient comme des fous. Donc on a quand même le poids de l'héritage et du savoir-faire depuis des siècles sur nos épaules. Mais aujourd'hui, le monde est ouvert. Et je pense qu'avec l'expérience que ces territoires ont, et une jeune génération qui arrive, il est possible de faire des petits bijoux et des petites merveilles afin de donner quelque chose de nouveau, de moderne à la gastronomie, au monde. Et c'est important d'avoir l'expérience et le discernement et tout le travail de gens pour pouvoir justement créer une bébé ou une bière à la Reine des Prés, comme mon collègue Damien Boucherie ou d'autres collègues qui font plein de choses. Il a fait un vin, une bière avec la vieille beige, avec des tonneaux de chez Stéphane Tissot en vin jaune. Je vous assure, quand vous goûtez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? On est dans un autre monde. Voilà, et effectivement, c'est ça qui est génial. C'est la créativité que Jean, avec l'aide de plein de gens qui tournent autour de lui, arrive à faire aujourd'hui.
On va monter au bar, Jean.
Oui.
Parce que la relation avec le client, c'est très important chez vous deux. Car quand on arrive dans votre établissement, on est un peu chez vous. Et Christophe, vous habitez carrément dans votre restaurant. On va aller au bar. Alors, c'est par où? C'est par là. Hop.
Voilà. Voilà. Donc ici, on arrive au bar. Effectivement, la relation avec le client est très importante. C'est ça qui a sauvé la brasserie Cantillon. C'est justement le fait d'ouvrir les portes, de laisser les gens venir à la brasserie, de laisser les gens comprendre le produit, parce que c'est un produit qu'il faut comprendre. C'est un produit qu'on ne connaît pas, qui a besoin de beaucoup d'explications. C'est un produit qui a besoin de gens qui prennent leur bâton de pèlerin pour aller l'expliquer. Christophe en fait partie maintenant. Et c'est ça qui a sauvé ce produit. Et effectivement, la brasserie est aujourd'hui un musée, comme je l'ai expliqué, qu'on a ouvert en 78, qui a un succès fou, voire même un peu trop. On est parfois un petit peu débordé.
Oui, je vous ai vu râler tout à l'heure.
On a quand même plus de 40 000 visiteurs par an et on a parfois un petit peu difficile à gérer ce succès. Mais voilà, ça fait partie intégrante de la brasserie aujourd'hui. Les gens rentrent, ils sont passionnés. Ils viennent parfois vous déranger alors que vous êtes en plein boulot, vous avez autre chose à faire. Mais voilà, ça fait partie du job, quoi.
Christophe Hardiquest, vous dites que conseiller le client, c'est très important. Vous dites, je ne peux pas servir un maquereau à la gueuse sans expliquer, pas comment je l'ai fait, mais peut-être l'origine du produit ou la façon dont vous avez cuit le maquereau. Il y a toute une histoire. Et c'est ça aussi la cuisine, c'est raconter des histoires.
Le telling story est très important.
Et puis, c'est pas très francophone, là, le telling story.
Non, c'est vrai, mais bon, tout le monde comprendra certainement. Je pense qu'ils sont bilingues. Mais c'est vrai que...
Tu peux le dire en flamand aussi.
Tu peux le dire en flamand, oui.
ce qu'il y a de génial ici, c'est d'avoir cette relation comme on l'a avec Jean et comme je l'ai avec plein d'autres personnes. Il y a un côté familial. Et je pense que les gens reviennent très fort à des vraies valeurs. On veut du concret. Et ce qui me plaît dans le travail de Jean aussi, c'est pas en dehors de son produit, c'est l'homme, c'est l'esprit de famille qu'il y a ici. Voilà, pour moi, c'est important tout ça aujourd'hui dans une société qui va toujours de plus en plus vite, où on demande de la rentabilité, etc. Je pense fondamentalement qu'il faut être d'abord idéaliste dans la vie pour un jour vraiment avoir de la sérénité dans les affaires.
On va terminer avec une histoire belge, Jean. Une histoire belge qui concerne la brasserie Cantillon, qui a une solide réputation aux États-Unis. grâce à un certain Michael Jackson. Sauf que c'est pas vraiment celui qu'on croit.
Ce n'est pas le chanteur qui avait l'habitude de remonter ses attributs, non, effectivement.
Tout de suite.
Ce n'est pas un Américain, c'est un Anglais, Michael Jackson. Oui. Est un de ces messieurs qui a relancé la bière, ce qu'on appelle en bon français aussi. Christophe parle de Telling Story. On parle aujourd'hui de craft beer. Donc la bière artisanale. Oui. La bière artisanale, on va dire, et c'est un des messieurs, ce n'est pas le seul, mais qui a effectivement remis sur les rails la bière traditionnelle, la vraie bière, et pas les bibines fabriquées par des méga industries. Et effectivement, il nous a pris un petit peu sous son aile, alors qu'à l'époque, Cantillon ne signifiait plus grand-chose pour beaucoup de gens. Et il a effectivement, dans un de ses bouquins, je crois, encensé et le Bruxelles, qui est notre vieux lambic de 3 ans d'âge, et le rosé de Gambrinus, la framboise. Et ça nous a donné un beau coup de pub aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis, assez paradoxalement, mais nul n'est prophète en son pays, ce n'est pas en Belgique que le succès est d'abord venu.
Il est venu d'outre-Atlantique.
Je sais bien.
On est toujours reconnu par d'autres pays que le sien, et c'est là dans tous les
domaines.
J'ai
beaucoup d'amis vignerons, qu'ils soient français ou italiens, qui me sortent exactement la même chose. Ouais. Et donc, effectivement, que ce soit les États-Unis ou le Japon, où il était assez connu aussi, ont été parmi ces premiers pays qui sont revenus sur ce type de bière acide que nous fabriquons ici.
Christophe Hardiquest, on va terminer avec une petite tradition dans cette séquence du Club francophone dans la librairie francophone estivale. C'est de nous dire un lieu dans lequel vous aimeriez manger un plat estival. Qu'est-ce qui représente l'été pour vous? Un plat et une plage, par exemple. Ce serait où?
Ne me dites pas au stand. Hein.
Non.
C'est une moule à knock.
Il y a plein d'endroits, mais pour moi, le côté estival, j'adore la Corse. J'aimerais manger une dorade grillée sur une des plages corses du sud de la Corse, style. Parce que j'ai oublié le nom d'une plage, mais.
Portici.
Oui, pas loin de...
Palombadjo,
oui, c'est ça, exactement. Une belle dorade, et j'ai un souvenir de ça, avec vue sur la Méditerranée. Voilà, pour moi, c'est ça. C'était un grand souvenir.
Très simple.
Très simple, bien sûr.
Le tout, c'est de savoir cuire la dorade, c'est toujours pareil.
Exactement, voilà.
Bon, merci beaucoup,
avec
Christophe.
Avec plaisir.
Merci. Félicitations, vous êtes l'un des plus grands chefs au monde, et vous nous avez rejoint ici à Bruxelles, dans la Brasserie Cotillon. Mais si, c'est vrai, vous êtes classé dans les 100 meilleurs. Ne soyez pas modeste.
Toujours là, ouais. Le Belge est très modeste.
Il est modeste, ouais. Et c'est ça qui fait sa force.
Merci Jean Van Roy de nous avoir accueillis ici.
Tout le plaisir était pour moi, merci d'être venu.
Merci beaucoup, merci. Chaque semaine, on écoute un titre joué dans notre studio, cette année dans la librairie francophone. Voici donc aujourd'hui le groupe calédonien Kaori, et juste après, on part au Québec avec Boucar Diouf.
Apporte-moi l'été, jette tes souliers, tu sentiras crisser le sable sous tes pieds, viens vivre la vie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Amène les poètes, les types un peu fêlés, les peigneurs de comètes, les chiens abandonnés pour vivre la vie. À ciel ouvert. À ciel ouvert. À ciel ouvert, je veux vivre la vie, bord de la mer sous le soleil de minuit. De l'instant qui fuit, je veux chasser l'ennui, danser sous la pluie. On a scié les barreaux de la pensée unique, laisser fuir les oiseaux vers l'horizon magique et vivre la vie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Au dos de nos guitares, on écrit des poèmes, des mots que le hasard des alizés entraîne au cœur de la vie à ciel ouvert. À ciel ouvert. À ciel ouvert, je veux vivre la vie, au bord de la mer, sous le soleil de minuit. De l'instant qui fuit, je veux chasser l'ennui, danser sous la pluie. Ni le doute, briser les vingt miroirs de nos belles déroutes, fabriquer des victoires pour vivre la vie à ciel ouvert, à ciel ouvert. Je t'invite au présent, à la fête qui bouge, dans la coupe d'argent, tempe tes lèvres rouges et bois la vie à ciel ouvert, et bois la vie à ciel ouvert. Ciel ouvert, je veux vivre la vie au bord de la mer, sous le soleil de minuit. De l'instant qui fuit, je veux chasser l'ennui, danser sous la pluie.
C'était Kaori avec À ciel ouvert sur votre radio francophone. On a quitté la brasserie Cantillon et on va se retrouver avec l'humoriste et scientifique québécois d'origine sénégalaise, Boukhar Diouf, qui a publié un livre très étrange mais très documenté sur les excréments. Restez à l'écoute, ce n'est pas vraiment ce que vous croyez, tout va bien se passer.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérade.
Et bonjour Boukhar Diouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis nos studios de Montréal, Boukhar, après un essai sur la communication des arbres qui avait fait beaucoup parler de lui dans cette émission. Vous publiez un essai inattendu sur les matières fécales des animaux et des hommes. Les bouses et autres résidus de digestion sont parfois très utiles. On doit beaucoup, par exemple, aux excréments du poisson perroquet.
Ben voilà, c'est un livre sans prétention, mais je voulais faire cet exercice de vulgarisation parce que les matières fécales, nous avons vraiment une relation amoureuse avec les matières fécales. On le voit avec les enfants.
Oui.
Quand ils sont tout petits, on leur dit « t'as fait un beau caca », on le dit parfois aux enfants. Mais en vieillissant, on soulève les couches et on manifeste du dédain. Et cette idée du rapport amoureux qu'on a avec le caca m'a amené à parcourir un peu le monde animal pour démystifier les choses.
Oui, alors le poisson perroquet.
Le poisson perroquet en fait partie, effectivement.
Qu'est-ce qu'il fait?
Donc c'est un poisson qui mange le corail.
Oui.
C'est ce qui mange le corail et qui extrait ce qui est nutritif là-dedans et défait une partie de ce qui constitue le sable fin de certaines plages sur lesquelles on aime bien se dorer la couenne, voilà. Pour les voyageurs avertis.
C'est vrai que les scientifiques, il y a des scientifiques, c'est très sérieux, hein, qui pensent que 70% du sable des plages des Caraïbes provient des déjections du poisson perroquet. C'est pas rien, quand
mais
même.
Heureusement, oui, c'est vrai, mais heureusement, on s'en rend pas compte quand on a un verre de margarita.
Tout au long du livre, vous parlez du moufa, Boukhar Diouf.
Oui.
Alors dites-nous.
Oui, c'est pour alléger la chose.
Eh ben oui.
Pour alléger la chose, parce qu'on faisait souvent cette blague quand j'étais jeune. Au lieu de dire le caca ou la crotte, on disait le moufa.
Voilà.
Alors ça aide un peu à passer la chose pour les mamans qui seraient réfractaires à ce que leurs enfants lisent ce bouquin. Alors,
bon, on apprend
moufa,
plein de choses.
Plus poétique.
On apprend plein de choses dans ce livre. On apprend aussi que contrairement aux vaches, les kangourous produisent des gaz qui sont bien tolérés par l'atmosphère. Ce ne sont pas des gaz à effet de serre. Il y a là aussi des études très scientifiques pour voir si les vaches pourraient avoir le fameux enzyme qui leur permettrait de ne pas contribuer à détruire la planète.
Ah ouais, voilà, ça c'est les Australiens. Hein. Les Australiens ont essayé de transplanter de la flore intestinale de kangourous à des vaches parce qu'une partie de leur gaz à effet de serre vient des émanations de leurs vaches. Ils ont eu un problème avec les bouses de vaches il y a dans les années 60, les Australiens, parce que la vache n'existait pas en Australie. Et donc, quand les gens ont commencé à augmenter le cheptel de vaches en Australie dans les années 60 et que les bousiers australiens ont vu les bouses de vache tomber, les bousiers savaient pas quoi faire avec la bouse de vache parce que ils étaient habitués à rouler des crottes de kangourou. Et donc il a fallu en Australie, la nuisance causée par les mouches était telle que les biologistes étaient obligés d'aller importer des bousiers d'Afrique pour régler la chose.
Les scarabées.
Ils sont allés chercher des œufs de bousiers d'Afrique et ils les ont incubés en Australie pour régler le problème des bouses de vache en Australie.
Alors, c'est un vrai problème. C'est vrai que ça peut être considérable, le problème des excréments.
Absolument, absolument, parce que les vaches ne broutent pas vraiment dans des endroits où ils font des bouses qui disparaissent pas. Mmh. Et on doit un grand merci au grand groupe des bousiers sans lesquels ben la planète au complet serait dans la merde, comme on dit. Excusez-moi pour le terme. Alors, on a le droit de le dire, le livre porte sur la merde, ok.
Dans votre essai sur les arbres, vous parliez aussi un petit peu de votre enfance. Et vous racontez encore une fois là que votre maman vous envoyait chercher des bouses de vaches dans la savane pour faire la cuisine.
Ah ben oui, tous les Africains qui écoutent, qui viennent du Sahel, savent que la bouse de vache séchée, c'est un combustible extraordinaire. Et donc, nous, quand on était jeunes, on allait ramasser la bouse de vache. Moi, je viens du Sénégal, je suis un serrère du centre du pays, de la région de Fatick. Et la bouse de vache séchée, on appelle ça umbel dans ma langue. Et le umbel, on ramassait ça et on l'utilisait comme combustible. Et puis donc, c'est en fait, je reste dans la continuité parce que passer des arbres aux excréments, les excréments, c'est le fertilisant. Et la planète végétale a évolué en regardant les animaux. Parce que la vérité, c'est que une fraise, quand elle est mûre, elle est sucrée, n'est-ce pas?
Oui.
Mais elle est sucrée quand elle est pas mûre, elle est légèrement toxique et on ne peut pas la manger. Pourquoi la fraise, elle synthétise du sucre quand elle est mûre, la fraise? C'est parce qu'elle sait, elle dit aux animaux, venez me manger, vous allez déféquer mes graines de l'autre côté pour que je puisse germer. Alors, les plantes se sont adaptées sur la planète bleue en étroite collaboration avec les animaux.
Oui, c'est vrai.
Et les biologistes ont un beau terme pour désigner ça. On appelle ça l'endozoochorie.
C'est ça.
C'est-à-dire la dispersion des graines, des végétaux à travers les excréments des animaux.
Alors, c'est vrai que les végétaux,
beaucoup ce thème-là aussi. Oui.
Les végétaux encouragent les animaux à les manger. Et on a constaté, du coup que certains végétaux se protègent de certaines espèces animales inutiles pour eux. Le piment, par exemple, qui contient de la capsaïcine, qui met le feu aux papilles, en fait, gustatives, en est un exemple. Voilà. Le piment ne souhaite pas être mangé par l'homme. Mais en revanche, les oiseaux, eux, sont insensibles à la capsaïcine.
Et voilà, les oiseaux étant insensibles à la capsaïcine, parce que les oiseaux disséminent, ils n'ont pas les récepteurs de la capsaïcine que nous avons.
Ouais.
Donc les oiseaux disséminent les graines de piment par leurs excréments. Si on pousse la réflexion plus loin, j'ai parlé du bousier, mais il y a un arbre africain qui s'appelle Ceratocarpium. Ceratocarpium, au cours de l'évolution, a développé des graines qui ressemblent à des boules de bouse de vache. Parce que vivant à côté des bousiers, l'évolution l'a poussé à développer cette stratégie pour que les bousiers confondent ces graines à des boules de bouse de vache et puissent les enterrer. Donc, il se fait germer gratuitement. Donc, ça, c'est de la coévolution. Bon. Permet aux plantes de faire ça. C'est fantastique.
Bon, Bocard Diouf, on va parler d'un café très rare. Si vous êtes amateur de café, c'est en Thaïlande. Le Black Ivory, produit grâce à des grains de café torréfiés par l'éléphant. Expliquez.
Mais voilà, c'est juste des éléphants souvent vieillissants. Mais le fait de faire manger les graines de café aux éléphants qui traversent leur tube digestif, apparemment, ça leur donne un petit goût de revenez-y. Alors, les gens doivent ramasser les graines de café qui ont transité par le tube digestif de l'éléphant.
Qui sont intactes.
Ces graines sont torréfiées et ça coûte cher.
Et ça coûte cher parce qu'il faut 33 kilos de café, de graines de café pour en récupérer un seul kilo parce qu'on récupère ce qui est intact. Et donc, ça coûte 1 100 $ le kilo de café, soit environ $50 la tasse. Il y a une partie de votre livre, Bocard Diouf, le dernier chapitre qui est consacré aux excréments humains. Là, franchement, c'est un peu plus difficile à lire, hein, sans avoir la nausée parce que...
Mais pourquoi, Emmanuel?
Bah, un petit peu quand même. Moi, j'ai eu un peu de mal. Mais peut-être parce que je l'ai lu d'une traite. Donc, à un moment, quand on arrive aux humains, là, c'est compliqué.
Mais écoute, ça fait partie de la vie, les excréments, n'est-ce pas?
Ah, mais attendez.
C'est une mine d'or.
Alors, la mine d'or, justement, parce qu'il y a un chercheur japonais qui a imaginé recycler les protéines contenues dans notre moufa, notre caca à nous, donc, pour en faire de la viande.
Oui, voilà, parce que le caca, c'est pas juste du jetable. Les protéines contenues là-dedans, c'est une expérience aussi inusitée. Vous tapez ça sur l'Internet, vous allez le trouver assez facilement.
Oui.
Mais le hamburger en question, il coûtait trop cher. Alors,
le caca burger.
Je ne pense pas que c'est une voie d'avenir pour demain. Mais il y a plein d'expériences qui sont faites avec le caca humain. Il y en a qui essayent les bouts d'épuration. On pourrait parler des bouts d'épuration qu'on utilise pour faire des briques. En Angleterre, il y a des gens qui l'utilisent pour faire de l'électricité, de toutes sortes de choses.
Ben oui, parce
que je crois qu'il y a C'est écologique de trouver des solutions alternatives à ce qu'on fait avec ça.
Et oui, parce qu'on en produit quand même 50 kilos par adulte et par an. Donc vous imaginez voilà. À l'échelle de la planète si on recyclait tout ça.
Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ou
quoi? C'est ça, quasiment. Bon, merci beaucoup Boukhar Diouf.
Merci Emmanuel.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Apprendre sur le tas, la biologie des bouses est paru aux éditions La Presse. À bientôt Boukhar. Et on termine cette édition sur la Grand Place, ici à Bruxelles, avec la Maison du Roi qui fait face à l'Hôtel de Ville. Deux monuments historiques absolument magnifiques, aux lieux touristiques évidemment, et une place célèbre dans le monde entier. À la rédaction aujourd'hui, Jean-Philippe Véret, avec les équipes de la RTBF ici en Belgique, et les équipes de la RTS, de Radio-Canada et de RFI. La semaine prochaine, nous serons dans une sorte de salle d'embarquement. On vous emmène en voyage, quatre destinations. L'Arménie avec Erevan, la Nouvelle-Calédonie avec un apiculteur, la Réunion avec un producteur de vanille, ou encore le Kivu avec un sujet beaucoup plus sérieux et le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Merci de nous avoir suivis ici à Bruxelles et à Liège. Bel été à tous et bon week-end.